Chaque jour, la fréquence de la paix unit le Congo avec le tour des provinces. Du nord au sud et des grands lacs à la mer, Radio Capi en direct de toutes les provinces. À 8h45, 12h15, 17h20 et 17h50, heure de Kinshasa. Le tour de province, vivez les informations avec les reporters de Radio Capi.
Bien, merci d'être à l'écoute de votre magazine de la vie au quotidien au Capi Service. On parle aujourd'hui de l'examen d'État, les épreuves hors session de l'examen d'État. Eh bien, ces épreuves se profilent déjà à l'horizon, sauf imprévu, et elles vont se dérouler au mois de mai prochain. Les finalistes du secondaire vont passer les épreuves orales, la dissertation et les jurys pratiques. Alors comment les élèves peuvent bien se préparer à affronter ces épreuves? Odon Moulanda, vous êtes spécialiste en éducation, bonjour. Alors, dites-nous, Odon, comment est-ce que les élèves, les candidats finalistes, peuvent mieux se préparer à affronter les épreuves hors session de l'examen d'État?
Ok, merci. Nous n'allons pas parler de l'organisation de l'examen d'État en termes de discussion. Nous allons parler des conseils que nous devons soumettre à tous nos élèves qui vont bientôt participer aux grandes épreuves nationales. Alors, ce qui est important de faire, c'est voir d'abord à tous nos élèves qui se sont engagés dans un processus, ils sont entrés dans un système depuis l'école primaire. Aujourd'hui, ils sont déjà au niveau secondaire, ils sont assortis de leur type de formation. C'est comme ceux qui suivent les matchs de football.
Monsieur Odon?
À la finale.
Oui, monsieur Odon?
Oui.
Alors, la communication n'est pas très, 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 très bonne aujourd'hui avec vous. Je vais vous demander, si possible, de vous déplacer un tout petit peu, de trouver ou d'adopter un autre angle. Peut-être que ça peut améliorer la qualité de la communication. C'est fait? Bougez un tout petit peu, déplacez-vous un tout petit peu. C'est fait?
C'est vrai, me déplacer.
Voilà. Nous rappelons que Odon Moulanda est spécialiste en éducation. Avec lui, nous parlons aujourd'hui de comment bien se préparer à affronter les épreuves hors session de l'examen d'État. Ou des questions et préoccupations, appelez-nous au 081-890-6394.
Au Congo, l'économie de tous les jours, c'est l'affaire de tous. Chaque samedi à 12h30 heure de Kinshasa, Radio Capi vous propose le panorama économique. C'est le résumé de l'actualité de la semaine. La vie des marchés, le développement des entreprises, l'équilibre du monde rural, les bonnes initiatives, une nouvelle tendance. Reportage sur le Congo qui bouge dans toutes les provinces. Le samedi de 12h30 à 13h, 30 minutes pour explorer le panorama économique de la RDC.
Bien, nous retrouvons Odon Moulanda, spécialiste en éducation, pour parler de ce thème, la préparation des épreuves hors session de l'examen d'État prévu au mois de mai prochain. Odon Moulanda, vous étiez en train de dire que la préparation ne commence pas maintenant, c'est depuis l'école primaire.
Oui, c'est que ce sont des gens, des élèves qui se sont fait inscrire dans le système. Ils ont commencé par l'école primaire. Aujourd'hui, ils sont à la fin de leur cycle du niveau secondaire. Donc, les matières qui seront objet des évaluations, ce ne sont pas seulement des matières du système secondaire. Donc, ils sont censés avoir passé normalement leur cycle et que le moment est venu pour qu'ils puissent discuter ce qu'ils ont lu pendant leur formation. Alors, maintenant, pour que cette sortie-là soit honorable, les élèves doivent se rendre compte qu'ils ont des devoirs à accomplir. Ils ont vraiment un engagement à prendre vis-à-vis des activités scolaires. Parce que qu'est-ce qu'on a remarqué? Il y a des élèves qui arrivent à la fin du cycle. Lorsqu'ils signent leur touche, c'est-à-dire nos fiches, à ce moment-là, ils disent, on le veuille ou pas, ils peuvent ou ne pas partir pour, ils vont réussir. Alors que la réalité scolaire, au travail qui leur est exigé, quand vous n'apprenez pas, quand vous n'étudiez pas, quand vous ne suivez pas les cours, comment voulez-vous que vous puissiez réussir? Puisque
oui.
La réussite dépend de votre engagement, de votre activité, de votre régularité au cours.
Oui, alors Odon Moulanda, vous avez dit tout à l'heure que les élèves finalistes du secondaire signent des fiches. De quoi s'agit-il? C'est des fiches d'identification?
Oui, parce qu'avant de participer au niveau de ces épreuves nationales, il faudra que l'élève soit d'abord identifié. Après le contrôle de tests scolaires, qu'on sache que votre tel est effectivement en règle, celui-là répond aux critères et il signe ses fiches. Mais ce sont des fiches de renseignement. Bon, il y a des termes techniques pour cette formule-là, mais ici, de manière un peu plus vulgaire, pour permettre à tout le monde de comprendre, on a toujours parlé des souches. Donc, l'élève signe ses souches. Là-bas, il y a des photos qu'il doit joindre pour qu'on sache que réellement c'est cet élève-là. Et il va présenter les mêmes photos pour les cartes d'élèves et les macarons. Donc, il faudra. Alors, qu'est-ce qu'on remarque?
Un instant, Odon, le temps d'accueillir César Moulunda, qui nous appelle les Kindou. Vous dites que les élèves, généralement, lorsqu'ils signent les fiches d'identification, qu'on appelle communément souches, alors après, bon, ils deviennent négligents, ils vont plus au cours, et voilà, certains deviennent même têtus, ils ne respectent plus ce que les enseignants leur disent. Bon, on aura à en parler tout à l'heure, le temps d'accueillir César Moulunda de Kindou. Vous voulez également participer, composer les 081-890-63-94. César Moulunda, bonjour.
Bonjour, bonjour et félicitations à la radio de la paix.
Bon, merci, félicitations pour quoi?
Ok, ma préoccupation c'est celle-ci, hein.
Oui.
Concernant aux finalistes, parce qu'ici chez nous à Kindou, j'ai mon petit frère qui étudie à l'ITPK. On les a distribués des souches. Ils ne connaissent même pas comment remplir des souches, comment se préparer. Ils craignent d'abord de se préparer et d'affronter l'examen d'État. Maintenant, je demande à notre invité quel conseil peut donner à mon petit frère. Parce que là, il n'y a pas un professeur qui est capable de les orienter comment se préparer à l'examen d'État. C'est ça la difficulté que comprend la difficulté de mon petit frère. Lui ne connaît donc rien comment se préparer, même comment remplir des souches. Les professeurs qui sont là pour les orienter, c'est trop difficile.
Voilà.
Quel conseil on peut donner à mon petit frère?
Oui, vous dites que c'est les professeurs, ces professeurs ne sont pas à mesure de lui montrer comment remplir la fiche d'identification?
Oui, ils ne sont pas capables, oui.
Comment ça?
Ben, si on les demande, ils vous disent, mais attendez, on va vous orienter, ça, ça. Jusqu'à maintenant, ils gardent les souches qui sont vides.
Voilà, donc vous voulez qu'on donne des conseils à votre petit frère pour ça. Mais vous-même aussi, vous pouvez l'aider.
Aussi même, à se préparer à l'examen d'État, comment faire la dissertation, lui ne connaît même pas. Il n'y a pas un professeur qui est capable de les expliquer.
Bon, on va poser la question à notre invité tout à l'heure. Il va répondre à votre préoccupation. Merci d'avoir appelé César Moulunda, qui nous appelait des Kindou, dans la province du Maniema. Comment bien se préparer à affronter les épreuves hors session de l'examen d'État? On aborde la question aujourd'hui avec Odon Moulanda, un spécialiste en éducation. Je disais tout à l'heure que ces épreuves se profilent à l'horizon, sauf imprévu. Elles vont se dérouler au mois de mai prochain. Alors, les finalistes du secondaire vont passer les épreuves orales, la dissertation et le jury pratique. Comment s'y prendre pour bien se préparer à ces épreuves? Appelez-nous pour participer au 081-890-63-94. Écrivez-nous également à service@radiourcapi.net.
Le magazine des Nations Unies. Tout sur les faits saillants des activités des agences du système des Nations Unies en RDC, chaque dimanche de 10h à 10h30, heure de Kinshasa, sur Radio Capi.
Comment bien se préparer à affronter les épreuves hors session de l'examen d'État? Odon Moulanda, vous êtes de nouveau en ligne. Le premier auditeur du jour, César Moulunda, nous a appelé des Kindou. Il dit que son petit frère doit présenter les examens d'État. Bon, il n'a pas encore rempli la fiche ou qu'on appelle communément souche. Et aucun des professeurs de son école n'est capable de l'aider à le faire. Qu'est-ce que vous pouvez dire à Monsieur César?
Je n'ai pas bien compris. Il dit que son petit frère n'a pas signé la fiche.
Oui, oui, il y a, l'affiche est disponible, mais il ne sait pas comment la remplir et aucun professeur de son école ne peut l'aider jusque-là.
Ah, mais c'est quand même étonnant qu'ils disent qu'il n'y a pas de professeur qui puisse l'aider, alors que sur cette fiche-là, au verso, il y a des instructions qui montrent comment on peut la remplir. Et puis, ce n'est pas un problème de professeur, il a un chef d'établissement. C'est que cet enfant-là n'est pas, si je peux vraiment être rigoureux ou honnête à le reconnaître, l'enfant, est-ce qu'il est vraiment candidat régulier? Est-ce qu'il fréquente réellement l'école? Est-ce qu'il voit son chef d'établissement? Parce qu'en fait, ce n'est pas le problème de professeur, c'est le préfet qui réunit tous ses élèves de 6e. Il a des séances de travail qu'il fait avec les élèves pour leur montrer comment remplir ces fiches-là. Et je vous dis qu'au verso de ces fiches, il y a des instructions clairement définies par le ministère.
Voilà, il y a des instructions clairement définies par le ministère. Ah, bien, vous avez dit, après avoir rempli les fiches, les élèves deviennent têtus et ne participent plus aux cours. Alors, qu'est-ce que, à ce moment-là, qu'est-ce que les parents peuvent faire? Et même les enseignants, parce que ils sont également censés aider ces enfants dans la préparation de leurs examens.
Vous rappelez que chaque fois que nous intervenons, nous parlons toujours du pont qu'il faudra établir entre l'école et le milieu familial. Donc les parents ont quand même cette obligation-là de passer au niveau des écoles de leurs enfants pour voir comment ces élèves-là évoluent. Parce qu'aujourd'hui, on a déjà vu que dans les classes de 6e, surtout que ce sont des grands garçons, des grandes filles, on leur donne les frais, par exemple les frais scolaires. Ces élèves arrivent quand même à utiliser cet argent pour d'autres fins. Et le parent qui continue à attendre à la maison va attendre tout simplement le jour de la publication des résultats pour se rendre compte soit l'enfant n'a pas réussi ou l'enfant n'a pas participé aux épreuves. Donc c'est le moment où chaque parent doit connaître du moins l'évolution de son enfant. C'est le moment où il doit se mettre dans le devoir de dire qu'est-ce que je dois, parce qu'il faudra reconnaître aussi le rôle des parents pour soutenir financièrement la scolarité de leurs enfants. Donc c'est le moment précis pour que chaque parent se rende compte de l'évolution de son enfant au niveau de l'école. Donc il ne suffit pas qu'ils évitent d'arriver à l'école, mais ils sont vraiment obligés de le faire. Donc à ce moment-là, on sait voir la situation et comment trouver des solutions aux problèmes qui se posent.
Alors, certains élèves disent qu'ils n'est pas, ils souhaitent souvent étudier en groupe, travailler en groupe avec des amis, ça les aide à bien assimiler les matières. Est-ce que vous soutenez cette idée-là?
Bon, en fait, quand nous voyons dans notre méthode de travail, il y a le travail individuel, mais il y a aussi le travail en groupe. Le travail en groupe n'est pas à décourager, parce qu'il faudra aussi échanger les expériences, il faut échanger aussi les contenus de matière. Vous savez que c'est quand même nécessaire de pouvoir avoir aussi un autre regard de ce qui s'est fait. Aujourd'hui, avec la mondialisation, le monde étant devenu un village planétaire, il y a d'autres informations qu'on peut recueillir aussi à travers le net, qu'on peut se partager. Il y a aussi d'autres formations qui sont organisées dans les pays, au niveau national et international. Donc, ces matières aussi viennent en soutien aux matières prévues dans notre programme. Donc, on peut quand même partager certaines matières vues avec les amis, non seulement de votre école, mais aussi les amis d'autres écoles. C'est quand même nécessaire de pouvoir se partager des matières. C'est pas mauvais.
Alors, comment se préparer à affronter l'épreuve orale? Parce que certains élèves intelligents qui parlent bien, dès qu'ils se retrouvent devant un jury, devant 5 personnes, et qui les regardent, ils perdent le contrôle, ils tremblent et ils ne savent plus bien parler.
Bon, c'est comme ça que nous disons, c'est le devoir d'abord du chef d'établissement de pouvoir sensibiliser ses élèves. Aujourd'hui, nous devons comprendre que le système de choix multiples seulement ne suffit pas. Il faudra que l'élève lui-même se réalise à travers les épreuves traditionnelles, à travers les épreuves orales, qu'il sache maintenant comment améliorer son expression. Il est quand même écœurant de voir qu'au niveau de certaines écoles secondaires et même dans les universités, des enfants qui continuent à parler seulement les lingala. Et c'est comme ça que lorsqu'ils se retrouvent devant les jurys, ils éprouvent ces difficultés-là. Donc, le français a son importance dans ce que nous faisons comme langue d'enseignement et langue officielle. Donc, il faut encourager les élèves de pouvoir aussi maîtriser cette langue-là pour qu'ils ne soient pas déphasés devant le jury. Et oui. Ils doivent aussi comprendre que les membres du jury qui sont là ne sont pas là pour le faire souffrir ou carrément les abuser. Ils sont là pour les aider à réussir. Donc, ils doivent se maîtriser devant des questions et voir, pas répondre de manière active, mais après avoir mené une réflexion, reformuler la question à sa manière et voir maintenant quelle est la réponse qu'il peut donner pour qu'il arrive à répondre correctement. Mais lorsqu'on est déjà un peu déphasé, on est déjà frustré devant le jury, c'est tout à fait normal qu'on ne puisse pas présenter de bons résultats. C'est comme ça que nous disons la préparation psychopédagogique des élèves avant les épreuves est vraiment requise.
Bien, nous avons en ligne Franklin, il nous appelle de Bukavu. Franklin, bonjour.
Bonjour, j'ai dit bonjour à notre invité, bonjour aux auditeurs de Capi Service.
On vous écoute.
Moi, j'ai peut-être, avant de commencer, oui, je vais faire un témoignage. Il y a pendant cette période, des élèves qui se retirent quelque part, ils appellent ça maquis, pour aller étudier en groupe. Là, ils dorment là, ils sont là toute la durée pendant que les examens vont passer. Mais il y a en fait certaines écoles qui interdisent cette pratique-là. Alors que pour les élèves, c'est une façon pour eux de s'éloigner un peu des petites distractions qui peuvent les distraire de bien préparer leur matière. Est-ce que notre invité peut-il nous dire, est-ce que le fait d'aller au maquis, de se retirer un peu de son habitation habituelle et d'aller quelque part en groupe, est-ce que ça peut aussi aider à bien préparer son examen d'état? Et que dire aux responsables de certaines écoles qui interdisent cette pratique-là?
D'accord. Merci Franklin de Bukavu. Anto Ntumba nous appelle de Kinshasa. Bonjour Anto.
Bonjour monsieur.
On vous écoute.
Oui. Par rapport à la suggestion qu'il a donnée, voir les choses de maquis là, moi je vois que ce n'est pas bien. Parce que les jeunes gens de Kinshasa, lorsqu'ils partent au maquis, ils se permettent de faire tout ce qu'ils peuvent faire, de faire de n'importe quoi. Et pour cela, pour moi, ce n'est pas bien d'y aller. Parce que si on reste à la maison, on est capable d'étudier. Ce n'est pas dire que lorsqu'on entre dans le maquis, qu'on peut étudier. Même à la maison, on peut étudier. Voilà mon proposition.
D'accord. Vous êtes élève finaliste?
Non, moi j'ai déjà fini. Je ne suis pas élève finaliste.
Ah, vous n'êtes pas élève finaliste. Merci. Alors, vous dites que donc on peut étudier à la maison. On n'est pas obligé d'aller au maquis, simplement. Et comment c'était? Dites-nous un peu comment vous avez eu à passer à ces épreuves orales, l'oral, la dissertation et les jurys pratiques.
Moi, je l'ai fait très bien. Je l'ai fait à la maison. Je ne l'ai pas fait au maquis. C'est à la maison que je l'ai fait.
Oui, maintenant, les jours de l'examen, quand tu t'es retrouvé devant le jury, comment ça s'est passé?
Ça s'est passé bien et j'ai répondu à toutes les questions que le jury m'ont posées.
Voilà, et la dissertation?
Bien aussi passé.
D'accord, c'était quoi les sujets abordés?
Mon sujet abordé était... Un instant que je réfléchis un peu parce que ça fait déjà beaucoup d'années.
Ah, ça fait. D'accord, donc, sûrement les souvenirs vont revenir. les sujets vont revenir plus tard. Merci d'avoir appelé Ntumba de Kinshasa. Nous allons retrouver, nous avons Christian Gabou, qui nous appelle de Kpandroma, province orientale. Christian, bonjour.
Bonjour, je suis Tachama. Bonjour à notre invité.
Et on vous écoute.
Nous avons une inquiétude par rapport aux candidats finalistes des écoles de chez nous.
Oui.
Il y a certaines écoles où les inspecteurs sont passés. Ils avaient déjà contrôlé les finalistes, les dossiers étaient contrôlés. Mais après les résultats de ces dossiers contrôlés, on trouve que tous les noms des finalistes ne sont pas ratés. Et on est obligé de les déclarer autodidactes. Alors, moi, je demande
oui,
à notre...
Oui, Christian, vous dites que les inspecteurs ont effectué les contrôles, et après, certains finalistes ne sont pas enregistrés.
Leurs noms ne sont pas rentrés comme réguliers.
Et pourquoi?
Déclarés autodidactes.
Pour quel motif?
Pardon?
Pour quel motif? Quelles sont les raisons à avancer?
En tout cas, on n'a pas avancé des raisons. Tout simplement, tout le monde est en train de se réserver. Quand on est en train de poser des questions, on dit que c'est à partir de Kinshasa que cela s'est fait. Les inspecteurs, même, ils disent comme ça. Ils ont fait leur rapport, ils ont envoyé les dossiers à Kinshasa. Et c'est de là que le nom n'est pas repris sur la liste des élèves réguliers. Alors, nous avons une inquiétude par rapport à ça. Il y a même des écoles où tous les candidats, leurs noms ne sont pas rentrés depuis Kinshasa. Alors, ces élèves-là, imaginez notre invité. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ces élèves-là?
Voilà, vous dites quand même dans une école où tous les élèves, leurs noms ne figurent pas sur la liste. Hein.
Et même, l'Institut Venant, ici chez nous, dans une école conventionnée catholique, les élèves, leurs noms finalistes, leurs noms ne figurent pas. Ils sont automatiquement autodidactes. Ils ont quitté l'école, ils ne viennent pas à l'école. Et l'école est restée sans la sixième année pour cette année. Et puis les autres écoles, telles que Tseluanga, là aussi on a des candidats nombreux, sont coupés, leur nom ne figure pas sur la liste des réguliers. Alors, ils sont vraiment dépaysés là, ils sont désorientés, on ne sait pas ce qu'on peut faire pour ce finaliste-là.
Voilà, mais je pense qu'il revient aux responsables de l'école d'entreprendre des démarches pour que ça peut être des erreurs, des erreurs qui se sont glissées, bon, d'accord.
Mais je demande un conseil de la part des spécialistes et des éducateurs.
D'accord. Merci Christian Ngabou de Pandroma, province orientale, et non Kabasele, vous êtes à Kinshasa. Bonjour.
Bonjour, la radio Campus.
Nous parlons aujourd'hui de la préparation, comment se préparer à affronter les épreuves hors session de l'examen d'État. Qu'est-ce que vous avez à nous dire?
Oui, c'est Benoît Kabasele.
Benoît Kabasele, voilà, allez-y.
Oui, par rapport à la préparation, c'est une bonne question. La préparation des élèves de 6e, pour moi, je ne trouve pas que c'est impossible ou une question miraculeuse. La préparation d'un bon élève débute dès la maternelle pour les autres qui ont eu la chance de faire la maternelle. Et pour les autres, c'est depuis l'école primaire. Si un élève, par exemple, se retrouve déjà en 6e, je pense que c'est déjà un métier à considérer. Il est capable de se préparer et prendre des précautions possibles pour se présenter à l'épreuve nationale. Mais mon inquiétude est qu'aujourd'hui, on trouve que les encadreurs, les enseignants ainsi que les préfets, surtout quand nous arrivons à cette période, deviennent souvent incapables de maîtriser les enfants de 6e.
Pourquoi?
Vous voyez, un préfet ou un enseignant qui n'arrive pas vraiment à être à la hauteur de sa tâche, c'est comme si les enseignants d'aujourd'hui commencent à craindre les élèves, surtout qu'ils se retrouvent déjà en 6e. Mais mon inquiétude, ou la question de curiosité que je voulais poser à l'invité, c'est de savoir. Qu'est-ce qui est impossible? Est-il vraiment impossible d'exclure un élève de la 6e après qu'il ait déjà signé les fiches de rangissement avant de se présenter à l'épreuve, ce n'est que la dissertation? Est-ce qu'il est impossible d'exclure un élève déjà signé quoi ces fiches de rangissement?
D'accord.
C'est ça au moins la question.
Merci Benoît Kabasele de Kinshasa. Odo Moulanda, vous êtes de nouveau en ligne, vous êtes spécialiste en éducation. Alors, le premier auditeur, il y a Franklin qui a appelé de Bukavu pour dire que pendant cette période de préparation des épreuves hors session de l'examen d'État, il y a certains élèves qui vont s'enfermer au maquis. D'après eux, c'est une façon de s'éloigner des distractions pour se concentrer et bien étudier. Anto de Kinshasa a appelé pour dire que non, on n'est pas obligé d'aller dans les maquis, on peut étudier à la maison. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ces auditeurs?
Bon, sur le plan officiel, tous ces maquis-là sont prohibés. Parce qu'on sait que beaucoup d'élèves profitent des maquis pour faire n'importe quoi. On n'est pas gêné de reconnaître que des expériences des années passées ont fait que les élèves se sont retrouvés après ces soi-disant maquis grosses, par exemple pour les filles. Des jeunes garçons se retrouvent aussi dans des groupes, des gens qui vont prendre la boisson et ainsi de suite. Donc, il y a beaucoup de conséquences qu'on a pu dénicher au niveau de ces maquis.
mais travailler en groupe de manière organisée n'est pas tellement mauvais.
Voilà.
Alors, ce qu'il faut retenir par rapport à tout ce que les amis disaient là-bas sur l'organisation, tout ça, il faut savoir que nous sommes dans une société organisée. Les épreuves nationales sont soumises à des lois, c'est-à-dire qu'il y a des mesures de sécurité qu'il faut respecter. Il faut des conditions d'admission de ces élèves aux épreuves nationales. Mais ces élèves-là, bien qu'ayant signé des souches, lorsqu'ils ne viennent plus au cours, le préfet a ses droits aussi de les déclarer absents. Donc les élèves doivent comprendre que la signature des souches ne leur donne pas le droit de faire n'importe quoi. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose par rapport à ce que les amis ont dit, mais aujourd'hui, quand on dit toute une école ne se retrouve pas sur la liste des écoles, des élèves réguliers.
Oui.
Mais qui sont élèves réguliers, qui ne le sont pas? Il y a la loi aussi qui fixe certains critères, notamment les critères d'âge, notamment les niveaux même de cursus. Il y a des instructions qui interdisent les inscriptions dans des classes de 6e. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on remarque? Il y a des écoles qui veulent promouvoir leurs institutions dans le spectre de 100%. Alors, on va remplir la classe de 6e, ce que nous nous disons, vous retrouvez qu'ils n'ont pas de classe inférieure, vous trouvez 5-6 élèves dans des classes inférieures et 180 autant d'élèves dans des classes de 6e. Mais les inspecteurs ont le droit de pouvoir contrôler ces pièces, voir comment ces élèves-là ont passé des classes. Mais lorsqu'on se rend compte que les dossiers qu'ils ont présentés ne sont pas conformes, on vous dit, bon monsieur, pour tel cas, en tout cas, si vous avez besoin vraiment de participer à l'examen d'État, vous le faites comme autodidacte. Donc c'est ça un peu. Donc pour ces écoles-là, il y a encore, sur le plan juridique, ce n'est pas n'importe quelle école qui peut présenter aussi les élèves aux épreuves nationales. Faudra-t-il avoir aussi un arrêté ministériel qui vous donne, qui vous reconnaît du moins cette qualité-là d'école organisant telle option. Mais
d'accord.
Quelqu'un peut naître n'importe qui, devient promoteur d'école,
oui.
Il va créer son école et il ouvre directement autant d'options et il voudrait soumettre ses élèves-là à l'examen d'État. Donc, monsieur le journaliste, il y a des matières qui sont soumises à la réglementation. Que ce soit les élèves, le chef d'établissement, les inspecteurs et tous les cadres de l'administration de l'enseignement primaire, secondaire ou professionnel sont soumis au respect strict de la réglementation en vigueur. Donc c'est ça qui fait que pour certains qui sont à l'intérieur, lorsqu'on dit Kinshasa, non, c'est pas Kinshasa. Kinshasa suit la réglementation en vigueur. Et tous nos inspecteurs, tous ceux qui sont aussi en province, sont des responsables qui relayent maintenant ces instructions-là.
Alors, donc, combien les parents payent ou les élèves payent pour passer ces examens?
Bon, ça, je ne suis pas autorisé de le dire comme ça. Et il faut attendre l'arrêté du gouverneur de province qui a c'est l'autorité habilitée à fixer ces taux-là.
Voilà, les élèves, vous avez dit au début de cette émission que la préparation commence déjà depuis l'école primaire et les élèves doivent être assidus, lire et ne pas devenir têtus ou négligents après avoir signé la souche, voilà, la fiche d'identification, ils doivent s'appliquer et les parents également doivent veiller sur la manière dont leurs enfants sont en train de se préparer à affronter ces épreuves orales, ces épreuves, disons. Il y a les épreuves orales, la dissertation, les jurys pratiques et les jurys pratiques. Voilà, je crois qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui, Odon Moulanda. Nous rappelons que vous êtes spécialiste en éducation. Merci d'avoir répondu à nos questions et à la prochaine.